QFD, c'est jusqu'à 11h. Soyez les bienvenus. L'actualité scientifique du jour concerne donc le mystère de la longévité chez les humains, un mystère dont on commence à percer les secrets au Macamis.
Et oui, et c'est l'histoire d'un groupe d'Amish à Berne, vous avez bien entendu. Des Amish, une communauté religieuse anabaptiste qui vit dans une petite ville nommée Berne, dans l'Indiana, dans le nord des États-Unis. Il se trouve que certains Amish de Berne ont une longévité étonnante et le secret de cette durée de vie augmentée est inscrit dans leurs gènes. C'est une publication parue dans la revue Science Advances. Les chercheurs de l'université de Northwestern à Chicago ont analysé le matériel génétique de 177 Amish âgés de plus de 18 ans à plus de 85 ans. Il se trouve que 43 d'entre eux, hommes et femmes confondus, sont porteurs d'une mutation et sont globalement en meilleure santé que leurs congénères. Leur espérance de vie est estimée à 10 ans de plus.
Ah, c'est quand même pas mal.
C'est beaucoup, oui. Et cette étude permet donc de décrypter certains secrets de la longévité et ouvre évidemment des perspectives intéressantes pour concevoir des traitements pour lutter contre la dégénérescence liée à l'âge.
Une découverte effectivement intéressante à plus d'un titre, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec vous, Bart de Planck, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes directeur du laboratoire des systèmes biologiques et génétiques à l'EPFL. Alors, un secret de longévité qui serait inscrit dans les gènes, Bart de Planck, dans quel gène justement ?
Donc oui, comme vous avez déjà entendu, c'est le gène SERPINE1. Donc en fait, le nom de gène, c'est un peu différent que le nom de la protéine qui s'appelle en anglais en fait Plasminogen Activator Inhibitor. C'est un long nom, mais en fait, ce que ça fait, c'est un inhibiteur de la fibrinolyse, en fait. C'est un grand mot de nouveau, mais c'est un processus physiologique qui dégrade les caillots sanguins. Et donc, dans ces gens-là, en fait, il y a des taux réduits de cette protéine, et ça peut entraîner donc une augmentation de la fibrinolyse, et donc, en fait, dans la réalité aussi, plus de saignements.
D'accord. Et à quoi sert à la base ce gène SERPINE1?
Bah exactement, donc pour éviter en fait quand il y a une sorte de saignement, il faut arrêter ce saignement. Et après quelques temps, quand ça s'est fait, en fait, il y a une sorte d'inhibition pour dégrader les caillots sanguins. Comme ça, en fait, la circulation tombe de nouveau comme normal en fait. Et ça, c'est assez important dans la vie normale si on a un petit accident, qu'on a d'abord en fait l'arrêt du sang, et après on doit en fait dégrader ces caillots sanguins qui s'est formé à cause de ce petit accident. Voilà.
Donc c'est pour ça en fait que les Amish, enfin ces personnes-là sont en meilleure santé.
Non, en fait, ça c'est un peu le mystère qui n'est pas encore tout à fait résolu. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est en fait que les cellules sanguines, en fait, dans ces gens-là, ils ont des télomères qui sont plus longs, en fait, dans des personnes qui ont le même âge. Ça veut dire, en fait, que ces cellules, en fait, sont biologiquement plus jeunes que des cellules, en fait, d'une autre personne qui n'a pas cette mutation, mais du même âge.
Les télomères, on rappelle juste, c'est donc ce qu'il y a au bout des chromosomes, hein, qui s'effritent un petit peu avec l'âge.
Oui, tout à fait. Donc, ces télomères, ils protègent les chromosomes de la dégradation. Et donc, si on a des télomères qui sont plus longs, ça veut dire que les chromosomes sont moins dégradés. Et donc, biologiquement, on est moins âgé ou donc plus jeune.
On connaissait ce gène, hein, on le connaissait déjà et son rôle dans le vieillissement. Par contre, ce qu'on connaissait pas, c'est cette mutation qui est présente chez cette population d'Amish.
Oui, bah, en fait, ça fait 20 ans, en fait, c'était trouvé d'abord dans une fille, justement, parce qu'en fait, elle avait beaucoup de saignements, donc dans une intervention qui était assez banale, en fait, elle continue à saigner pas mal, et donc ils ont cherché, ils ont trouvé, en fait, cette mutation dans cette gène. C'est qu'après, en fait, qu'on a commencé à chercher, en fait, l'importance de ce gène dans cette population, en fait.
D'accord, alors mutation, télomère plus important, mais en fait, dans le fond, les Amish, ils ont aussi un mode de vie très différent d'une autre. Hein. Ils font des travaux agricoles à la main, alors les repas sont généralement copieux, mais ils sont sains, hein. Il y a très peu de cas d'obésité. Et, au fond, on pourrait se dire aussi que le mode de vie joue aussi un rôle, non ?
Ah non, c'est clair, donc on doit quand même faire vraiment attention. D'abord, on doit dire que en fait, la santé de la population en entière de ces Amish, c'est déjà beaucoup meilleur en fait, que la population moyenne, en fait, même en Suisse par exemple. Hein. Donc de toute façon, ils sont un peu protégés de la société moderne. Et donc ça, on peut déjà dire, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer si cette mutation aussi tombe dans des gens qui vivent dans une société moderne, en fait. Donc là, on doit faire quand même un petit peu attention parce qu'ils habitent, en fait, ils vivent quand même dans une commune qui est très isolée, très protégée, en fait, des challenges qui modernes, en fait, que les gens modernes font face chaque jour. Hein.
Alors justement, on a pu découvrir ce gène parce que la communauté Amish est assez isolée géographiquement et génétiquement. Une communauté d'ailleurs qui est partie de nos régions de Suisse, d'Alsace. Sauf erreur, c'était au XVIIIe siècle. Est-ce qu'on pourrait retrouver ce gène dans la population suisse ici ?
Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, à cause de cette distribution de ce gène, qui est en fait à peu près 16%, 20% de cette population, on peut vraiment faire un arbre génétique et on peut voir en fait que ça fait maintenant à peu près 6 générations que ces gènes sont distribués dans cette population. Donc on peut en fait pratiquement dire que le gène, ou bien cette mutation, vient vraiment des gens qui sont venus de la Suisse aux États-Unis. Donc un ou bien l'homme ou bien la femme était déjà porteur de ce gène. Donc ça veut bien dire que peut-être c'est possible. Il y a quand même des gens dans la population suisse, peut-être à côté de Bâle, qui ont aussi cette mutation.
Est-ce qu'on peut imaginer d'autres mutations ? Là, on en a identifié une. Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs mutations ?
Ah oui, clairement, mais quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait, on a quand même séquencé le génome déjà de pas mal de gens dans le monde. Et le problème, c'est qu'on n'a pratiquement jamais trouvé cette mutation spécifique. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une sorte de pression sur le fait que cette mutation n'arrive pas aux gens. Autrement, si c'était tellement important ou tellement bénéficiel pour avoir cette mutation, on aurait le voir en fait un peu partout, mais non, en fait dans la population, en fait cette mutation, on ne le voit pas. Donc ça veut dire quand même que peut-être, pas dans la population Amish, peut-être à cause de leur style de vie, mais dans une société moderne, peut-être cette mutation peut avoir quand même des effets qui sont peut-être pas très bénéficiels, et c'est à cause de ça qu'on ne le voit pas dans la population générale, en fait, dans le monde.
Quel genre d'effet
Ben, par exemple, déjà des saignements qui sont clairement pas nécessairement bénéficiels et peut-être quelque chose lié au stress. C'est clair que ces gens d'Amish, ils n'ont pas le stress du jour.
Ah non.
Et donc du coup, en fait, s'il y a peut-être cette mutation, on supporte moins le stress, on supporte moins en fait quelques interactions. On ne sait pas en fait, mais c'est clair qu'il y a quand même un mystère lié au fait que si cette mutation est tellement bénéficielle que ça rend en fait la vie plus longue, pourquoi on ne le voit pas en fait plus généralement dans la population ? On ne le voit pas, donc ça veut dire quand même qu'il y a des désavantages intrinsèques qu'à ce moment-là, on ne connaît pas encore.
Mmh. Donc on a quand même des sérieuses pistes qui nous montrent que c'est ce gène SERPINE1 qui est impliqué. Je le disais en début de sujet, ça ouvre des perspectives en matière de traitement contre le vieillissement. Il y a quand même quelque chose qui est troublant. Une mutation génétique, on l'a ou on ne l'a pas, comme on a les yeux bleus ou pas. En quoi on peut développer des traitements génétiques ou des traitements médicamenteux ?
Ben, donc, par exemple, dans ce petit cas-là, en fait, c'est clair, si on a une mutation, ça veut dire en fait une perte de fonction de cette protéine. Donc, si on veut simuler ça, on doit avoir un traitement qui en fait vise en fait cette protéine aussi et le rend dysfonctionnel. Donc, par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle des anticorps pour vraiment focaliser sur cette protéine et donc diminuer sa fonction. Le problème, naturellement, c'est en fait si on diminue la fonction totalement, donc jusqu'à zéro, comme on a déjà dit, ça peut en fait générer des saignements qui sont assez profonds, qui sont assez significants. Donc le traitement doit être vraiment délicat parce qu'on ne peut pas vraiment diminuer la fonction totalement, donc on doit trouver quand même une sorte de balance entre les deux.
Est-ce qu'il y a des essais en cours de molécules justement qui modulent un petit peu ce taux de protéines ?
Oui, en fait, il y a déjà des trials, hein, comme on dit. Donc, on essaie de développer ce genre d'anticorps. On essaie de regarder quels sont les effets. Mais comme j'ai déjà dit, je mets quand même un peu de caution là, parce que en fait, vraiment évaluer l'effet en fait de ce genre de traitement dans la vie normale, c'est quelque chose de très important. Et pour ça, en fait, on doit attendre quand même encore un petit peu.
Vous dites attendre, mais en fait, ce genre de découverte, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, directeur du laboratoire des systèmes biologiques et génétiques ? Oui. Qu'est-ce que vous allez en tirer, vous ?
Ben déjà là, en fait, qu'il y a quand même ce mystère que là, en fait, c'est vraiment une des évidences ou vraiment des faits premiers dans le monde pour vraiment démontrer dans les gens là, en fait, qu'il y a un gène qui peut vraiment lier ou qui peut vraiment augmenter, en fait, la vie des gens. En fait, ça, c'était déjà montré, en fait, dans les organismes modèles. Mais de le voir dans l'homme, en fait, c'est très important, c'est très intéressant. Maintenant, c'est un peu à nous pour, en fait, essayer de comprendre le mécanisme moléculaire, en fait, qui est lié à cette protéine, ou bien, au moins la mutation, et pourquoi, en fait, ça rend une vie, en fait, plus longue. Donc ça, c'est quelque chose de très important, très, très, très intéressant aussi à poursuivre. Et comme j'ai dit, donc, l'évidence première, qu'il y a quand même un système moléculaire qui peut rendre la vie plus longue aussi dans l'homme.
Mmh. On a parlé des Amish donc, aux États-Unis. Il y a aussi une population dont on parle souvent comme exemple de longévité, ce sont les Japonais. Là, ça serait plus lié à un mode de vie ?
Oui, ben c'est toujours là, en fait, si on peut vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a, le mystère, le magique, en fait, de ces gens-là. Oui, dans le cas des Japonais, on pense, en fait, que c'est bien le mode de vie, un peu, peut-être, moins de sucre, plus de légumes, plus de fruits. Mais de nouveau, en fait, c'est maintenant qu'on vit dans une époque qu'on fait pour la première fois qu'on ait la séquence de toute la collection des gènes. Et donc, on est juste au début pour vraiment comprendre, en fait, la liaison entre, en fait, une longévité et la collection des gènes qu'on a, en fait. Donc, je pense, dans les prochains 10 ans, qu'on va faire quand même encore des découvertes dans le domaine génétique très importantes qui peut nous faire comprendre un peu mieux, en fait, la relation entre la génétique et la longévité.
Merci beaucoup Bart De Plincq. Je rappelle, vous êtes directeur du laboratoire des systèmes biologiques et génétiques à l'EPFL. Vous avez répondu à l'invitation d'Ouma Camis. Je vous souhaite une très très bonne journée.
Merci bien. Bien à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et puis, alors, pour nous, c'est l'occasion aussi de saluer tous nos amis de Berne, de leur souhaiter un ganz schönen Tag. Oui, en suisse allemand, puisque leur dialecte est, semble-t-il, assez proche du suisse allemand.
CQFD sur la